Et nous continuons son parcours. Et nous verrons que ce texte que nous allons lire ce matin est particulièrement à propos pour notre situation. Je vous invite à lire avec moi dans les Bibles, dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 19. Et nous lirons le chapitre 19 et le chapitre 20. Ésaïe 19 et 20. Message sur l'Égypte. L'Éternel monte sur un nuage rapide. Il vient en Égypte. Les faux dieux de l'Égypte tremblent devant lui et les Égyptiens perdent courage. Je dresserai l'Égypte contre les Égyptiens et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'Égypte perdra l'esprit et j'anéantirai ses projets. On aura beau consulter les faux dieux et les morts, ceux qui invoquent les esprits et les spirites, je livrerai l'Égypte entre les mains de Maître Sévère. Un roi cruel dominera sur eux, déclare le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers. L'eau de la mer disparaîtra, le fleuve disparaîtra, sec et aride, les rivières empesteront, le delta de l'Égypte sera bas et desséché, les roseaux et les jonques se flétriront. Tout le paysage sera nu le long du Nil et à son embouchure, tout ce qui aura été semé sur ses rives se desséchera, se transformera en poussière et disparaîtra. Les pêcheurs gémiront, tous ceux qui jettent l'hameçon dans le Nil seront dans le deuil, ceux qui étendent des filets à la surface de l'eau dépériront. Ceux qui travaillent le fin lin et qui tissent des étoffes blanches seront couverts de honte. Les soutiens du pays seront écrasés. Tous les travailleurs salariés seront dans l'abattement. Les princes de Tsoan sont autant de fous. Les sages conseillers du pharaon forment un conseil stupide. Comment pouvez-vous oser dire au pharaon « Je suis un fils des sages, un descendant des rois du passé ». Où sont-ils donc tes sages ? Qu'ils te fassent donc des révélations et que l'on découvre quelle décision l'Éternel, le Maître de l'univers, a prise contre l'Égypte. Les princes de Tsoan font preuve de folie. Les princes de Memphis se bercent d'illusions. Ces chefs de tribu égarent l'Égypte. L'Éternel a déversé au milieu d'elle un esprit de vertige et ils égarent les Égyptiens dans tout ce qu'ils font. Ils sont pareils à un homme ivre qui titube en vomissant. L'Égypte sera incapable de faire quoi que ce soit de plus important ou plus insignifiant du sommet au bas de la société. Ce jour-là, l'Égypte sera pareille à des femmelettes. Elle sera terrifiée. Elle tremblera de peur en voyant l'Éternel, le Maître de l'univers, brandir sa main et la lever contre elle. Le pays de Juda sera une source de terreur pour l'Égypte. Dès qu'on la mentionnera devant elle, elle sera saisie de frayeur à cause de la décision que l'Éternel, le Maître de l'univers, a prise contre elle. Ce jour-là, il y aura 5 villes en Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui prêteront serment par l'Éternel, le Maître de l'univers. L'une d'elles sera appelée la ville de la destruction. Ce jour-là, il y aura un autel consacré à l'Éternel au cœur de l'Égypte et près de la frontière du pays, un monument en l'honneur de l'Éternel. Ce sera un signe et un témoignage pour l'Éternel, le Maître de l'univers en Égypte. Quand ils crieront à l'Éternel à cause de ceux qui les oppriment, il leur enverra un sauveur, un défenseur qui les délivrera. Ce jour-là, l'Éternel sera connu des Égyptiens et les Égyptiens connaîtront l'Éternel. Ils le serviront avec des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et ils les accompliront. Ainsi, l'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira et ils se convertiront à lui. Il répondra à leurs prières et les guérira. Ce jour-là, il y aura une route entre l'Égypte et l'Assyrie. Les Assyriens se rendront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie, et les Égyptiens serviront l'Éternel avec les Assyriens. Ce jour-là, Israël sera le 3e avec l'Égypte et l'Assyrie à être une bénédiction pour toute la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, les bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, l'Assyrie que j'ai créée de mes mains et Israël, mon héritage. » L'année où, envoyé par le roi d'Assyrie Sargon, Tartan vint faire le siège d'Asdod et s'empara de cette ville. L'Éternel avait parlé par l'intermédiaire d'Ésaïe, le fils d'Amos. Il lui avait dit, « Va, détache le sac qui est autour de ta taille et retire les sandales qui sont à tes pieds. » C'est ce qu'il fit, il marcha sans habit et pieds nus. L'Éternel dit alors, « Mon serviteur, Ésaïe, a marché sans habit et pieds nus pendant 3 ans. C'est un signe et un présage contre l'Égypte et contre l'Éthiopie. De la même manière, le roi d'Assyrie emmènera les déportés égyptiens et les exilés éthiopiens, les jeunes garçons comme les vieillards, sans habit, pieds nus et l'arrière découvert. Ce sera une source de honte pour l'Égypte. Alors on fera dans la terreur et la honte à cause de l'Éthiopie, en qui l'on avait placé sa confiance, et de l'Égypte, dont on vantait la splendeur. Les habitants de ces régions côtières diront ce jour-là, voilà ce qui est devenu l'objet de notre confiance. Nous comptions sur lui pour être secourus, pour être délivrés du roi d'Assyrie. Comment pourrions-nous lui échapper maintenant ? Qui dirige les événements dramatiques que nous sommes en train de vivre ? Vers qui, vers quoi nos yeux se tournent actuellement ? Je pense, comme beaucoup d'entre nous, nous vivons depuis des semaines, et particulièrement ces derniers jours, au rythme des informations transmises par nos médias sur l'évolution du virus Covid-19 et sa propagation. Où placer notre espérance ? Où placer notre foi quand des personnes meurent autour de nous ou dans le monde, ou quand l'effet de cette crise m'atteint ou m'atteindra économiquement à travers peut-être du chômage, des arrêts d'activité, des difficultés financières. La foi est toujours de mise quand nous ne sommes plus au contrôle. Même en tant qu'athée, il nous faut la foi et il leur faut la foi. Aujourd'hui, nous ne sommes plus au contrôle. Vers qui ? Vers quoi allons-nous tourner nos regards pour notre secours ? Vers les scientifiques ? Vers l'information de nouvelles qui nous viendraient des informations ? Des dernières informations des scientifiques en vue d'un vaccin pour le virus ? Des hommes politiques et de leurs discours ? De l'économie ? Au fond, sur quoi notre foi va reposer ? Sur quel est son objet ? Est-il durable, puissant, total, digne de notre adoration et de tous nos efforts ? Est-il suffisant pour donner du sens à notre existence tout entière ? Nous permettra-t-il d'obtenir sécurité et paix, assurance et espérance ? Et bien sûr, sera-t-il vrai ? Sans quoi il serait disqualifié de facto. Le texte du prophète Ésaïe que nous avons lu examine un problème similaire. Dans le contexte géopolitique de l'Israël du 8e siècle avant Jésus-Christ. Comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, le pays de Juda, la partie du sud d'Israël, vivait au rythme des informations qu'elle recevait. Même si c'était à propos de l'avancée de l'empire assyrien à ses portes. Nous, c'est à propos de l'avancée d'autre chose. Toutes ces pensées étaient fixées sur cette situation et sur la crainte de voir l'Assyrie l'écraser, ce grand empire de l'époque, sans doute obnubilé par la situation, éperdue et rongée, sans doute par la crainte, elle se met à tourner ses regards vers la solution qui lui semble être à sa portée, la plus rapide et efficace, trouver un allié de taille. Et si l'Égypte n'était pas celle qui réglerait tous ses problèmes ? Elle est puissante, elle est solide, elle est riche, elle est sage. Et nous, Juda, ce petit peuple, nous sommes un peuple si fragile et si près d'être écrasé. Le prophète Ésaïe pose une question au peuple de Juda. Pourquoi Juda placerait sa confiance en l'Égypte alors que, et ça c'est les trois points que je vais développer, elle subira le jugement de Dieu qui dévoilera sa faiblesse, alors qu'elle la suivra dans l'adoration du Dieu d'Israël, de son Dieu, alors qu'elle a échoué à secourir un peuple voisin. Nous aurons tout au long de ce message l'occasion de réfléchir ce qui se cache derrière la confiance en l'Égypte pour nous aujourd'hui. Juda ne doit pas se tourner vers l'Égypte, car elle subira le jugement de Dieu qui dévoilera sa faiblesse et notamment sa confiance dans des dieux qui ne lui apportent aucun secours, versets 1 à 4. Sa confiance dans des ressources financières, versets 5 à 10. Sa confiance dans sa sagesse, versets 11 à 15. Rédigé sous la forme d'un poème en trois strophes, Ésaïe va montrer que tout ce qui fait la grandeur de l'Égypte sera détruit. Juda regardait à l'Égypte alors que le jugement de Dieu sur l'Égypte fera frémir le peuple et tous ses dieux. L'Égypte avait une dizaine de dieux qui n'étaient que des statues et qui ne sont rien que des déesses. Pourtant, tous ces dieux suscitaient des luttes internes. On disait que c'est moi qui ai le dieu le plus important. Hein. On se battait pour voir le sien être mis à l'honneur. On ne s'étonnera pas que des disputes internes naissent, verset 2. D'ailleurs, les premières dynasties de l'Empire égyptien, au 3000 et moins 2000 avant Jésus-Christ, avaient régné puissamment, mais quand le pays s'est fragmenté en 42 cités-états, le chaos a fini par s'installer. Les dieux, ces dieux n'ont pas créé le socle de l'unité d'un peuple. Notre individualisme moderne crée peut-être une réalité similaire. Nous plaçons notre intérêt avant celui de la nation et cela dissout notre unité. Nous n'avons plus d'histoire commune, de foi commune. Notre polythéisme nous autodétruit. Emmanuel Macron a appelé le peuple français à s'unir autour de valeurs fortes comme la solidarité, le bien commun, mais ces valeurs, ces croyances, sont malheureusement minées par un Dieu, le Dieu de chacun, le moi. La nouvelle religion de notre société, la liberté, ne nous aide guère dans la période dans laquelle nous passons. Dès lors que notre espoir en nous-mêmes a défailli, nous n'avons plus de recours en nous-mêmes. Et c'est alors logique qu'un grand nombre se tourne vers les voyants, verset 3, pour connaître ce qui les échappe. Dans ces circonstances, il est même parfois facile de tomber entre les mains de maîtres cruels, verset 4. Pourquoi Juda serait attiré par les dieux de l'Égypte? Pourquoi nous serions attirés par nos propres dieux? Quand les circonstances sont tragiques, difficiles, ils ne sont d'aucune utilité, nous dit Ésaïe. Mais le jugement de Dieu n'atteint pas seulement la religion de l'Égypte, elle atteint aussi ses ressources. Il n'est pas exagéré de dire pas de Nil, pas d'Égypte. Le fleuve du Nil est le seul rempart contre le désert. Sans lui, l'Égypte ne serait rien. Et c'est sans doute cela que Ésaïe décrit dans les versets 5 à 10. Mais le problème avec le Nil, c'est que c'est prévisible et son abondance, on la reçoit chaque jour et on n'en est plus réjoui. Même, on a tendance à placer sa confiance en soi, et c'était sans doute le cas de ce peuple égyptien. L'Égypte a peut-être et sans doute oublié que la ressource qui l'a fait vivre, qui fait pousser toutes ses plantes, jonques et roseaux, versets 6 et 7, qui fait vivre les pêcheurs, les tisserands, tout le pays ne dépend en rien d'elle-même, mais est entre les mains de Dieu. Si tout au long de son histoire, l'Égypte a pu exporter ses céréales vers le reste du monde, le jour où le Nil s'assèche, la vie végétale s'arrête, la vie marine aussi, et l'industrie est à l'arrêt complet, versets 8 et 9. De la même manière, nous pourrions nous tirer fierté, nous, pays industrialisés, de notre puissance économique, de nos réalisations. Comme la Chine a se croire peut-être supérieure aux autres avec sa puissance économique sans précédent, avec sa démographie, un grand nombre, avec le nombre de Chinois, il a suffi d'un simple virus qui ressemble à une grippe pour causer une récession dans un pays aussi puissant que la Chine, ou dans des pays occidentaux comme l'Italie, la France. Nos ressources, nos points forts, nous en tirons notre fierté. Nous finissons par croire, sans jamais le dire, que nous sommes, grâce à nos ressources, les vrais maîtres du monde, oubliant toujours qu'elles nous viennent de Dieu, du Tout-Puissant, qui tient l'univers dans sa main. Le jugement de Dieu s'exerce par la disparition de ses ressources et nous laisse avec une question. Pourquoi avons-nous placé notre confiance en nos propres ressources qui sont susceptibles de disparaître au lieu de trouver notre refuge en Dieu? Si l'Égypte avait des raisons de se vanter de sa riche religion et de ses ressources, elle avait aussi des raisons d'être fière de son ancienne sagesse. Sa littérature était parmi les plus anciennes et les mieux conservées. Elle était riche en réflexions sur la nature, sur le sens de la vie. Versets 11 à 15. Pourtant, Ésaïe n'a pas honte de dire qu'elle est disqualifiée. Quand Dieu peut contrecarrer les plans des puissants, eux sont incapables de découvrir le ciel. Notre monde est comme une partie d'échecs. Nous jouons des coups et parfois nous nous glorifions d'avoir 3 ou 4 coups d'avance quand Dieu voit minimum 30 coups à l'avance et même voit la fin de la partie. D'ailleurs, ce n'est pas totalement nouveau. À l'époque des patriarches, au temps où un Israélite était prisonnier dans une prison de l'Égypte, personne n'avait su discerner la situation de l'Égypte, lorsque le pharaon avait fait 2 rêves. Seule la révélation de Dieu, faite à un esclave emprisonné, Joseph, a su éclairer le pharaon sur la situation. Les hauts fonctionnaires d'Égypte sont une bande d'imbéciles, dit littéralement notre texte. On aurait pu s'attendre à ce que leur étude leur donne de la sagesse. Pourtant, ils ne savent pas discerner ni le passé, ni le présent. La sagesse qui est limitée en ce monde est aussi myope et confuse qu'une personne perdue dans une forêt dense. Comment les sages qui ne regardent pas les événements à la lumière de la foi en Dieu peuvent-ils expliquer cela? Je crois fondamentalement que nos pays occidentaux, comme l'Égypte, sont fiers. Fiers de leur religion, leur athéisme, fiers de leur richesse, de leurs ressources, fiers de leur philosophie athée, particulièrement en France. On l'exporte même à l'étranger. Mais quand vient le malheur, comme nous le vivons actuellement, cette fierté est anéantie et se change en honte. Dieu n'est pas directement à l'origine de la souffrance. Il n'a pas créé un monde dans lequel la maladie, les catastrophes et la mort étaient présentes. Les forces destructrices et porteuses de du chaos ont été relâchées au moment où l'humanité s'est détournée de lui. Et la substance même du monde en a été affectée. Mais pour autant, Dieu garde toujours un contrôle absolu sur tout. Il utilise même parfois ses forces destructrices pour que la fierté d'un pays, d'une nation, d'individus soit détruite, pour qu'elle nous laisse face à un grand vide. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'entend pas s'arrêter là. Pourquoi Juda placerait sa confiance en Dieu alors qu'elle le suivra dans l'adoration de son Dieu? Dans notre texte, on passe de la poésie à la prose, du jugement de Dieu sur l'Égypte aux promesses les plus belles du salut. Cette partie est marquée par 5 répétitions de « en ce jour-là », versets 16, 18, 19, 23, 24, qui montrent clairement que le prophète voit ces événements comme se produisant à la fin des temps. Ou au moins au point où Dieu prend des mesures décisives sur les événements mondiaux. On peut voir une progression. On passe d'une Égypte terrorisée par la pensée même du Dieu de Juda à une Égypte se joignant à l'Assyrie et à Israël dans l'adoration joyeuse de Dieu. Les versets 1 à 15 qu'on a étudiés ont annulé tous les points forts des Égyptiens qui pourraient attirer Juda en Égypte. Les versets 16 à 25 disent qu'il est complètement stupide que Juda se tourne vers l'Égypte alors que l'Égypte va un jour se tourner vers Dieu. Juda n'a pas besoin de chercher l'Égypte comme protectrice parce que justement l'Égypte se placera sous la protection de son Dieu. Parce que le Dieu d'Israël sera le Dieu de l'Égypte. Les versets 16 à 17. On pourrait penser que la terreur de ces versets et l'agitation se rapportent à ce qui précède. Mais la différence fondamentale, c'est que c'est la cause de cette terreur. Ici, c'est Dieu qui est l'objet de la terreur en Égypte. L'Égypte se tournera vers Juda d'abord avec peur, puis ensuite avec confiance. Ce regard effrayant est une autre expression d'une vérité peut-être fondamentale que nous avons oubliée. Le repentir, le changement et la guérison passent par la correction et le jugement. Ceux qui n'ont pas connu les effets du péché nieront très probablement qu'ils ont commis un péché. Mais ceux qui se sentent écrasés chercheront un sauveur. Et Ésaïe promet exactement cela. Ce n'est pas que la punition paie notre salut, en quelque sorte. Personne ne peut faire cela en face du Dieu saint. Mais au contraire, le jugement nous avertit de commencer à chercher la porte de sortie d'une manière que Dieu veut nous montrer à tous, même aux Égyptiens complaisants parmi nous. Combien de fois des personnes dans un monde confortable qui s'est écroulé autour d'eux se sont tournées vers Dieu en désespoir de Paul et ont découvert presque avec une grande surprise que Dieu attendait de les recevoir. C'est exactement l'histoire du fils prodigue que Jésus raconte. Il faut qu'il soit au bout de lui-même pour qu'il se rende compte que son père l'a toujours attendu. Au Aussi Ésaïe dépeint l'Égypte se tournant vers Dieu. Aussi étonnant que cela puisse paraître, certaines villes parleront hébreu. Une ville qui était même au dieu soleil, Héliopolis, verset 18, se retournera vers Dieu. Mais de manière encore plus étonnante, et là c'est vraiment grandiose, étonnant, énorme ce que Ésaïe prévoit. L'Égypte se tournera vers Dieu de manière radicale. Elle exprimera sa reconnaissance, nous dit le texte. Elle sera intégrée dans son alliance. Ce tournant radical de l'Égypte est la preuve que Dieu s'est tourné vers elle. Celui qui les avait frappés par son jugement devient son libérateur, son sauveur. Comme le peuple avait été écrasé sous le poids des péchés de l'esclavage en Égypte et avait crié à Dieu de la même manière, Dieu a entendu les cris de l'Égypte. Non seulement les Égyptiens adoreront Dieu ouvertement, versets 18 et 19, mais ils expérimenteront sa patience et son amour, verset 20. Et ils le connaîtront d'une connaissance salutaire, comme celle du peuple choisi par Dieu. La relation entre Dieu et l'Égypte sera semblable à la relation d'un père avec son enfant. Les punitions du Seigneur seront pour la guérison et non pour la destruction. Les versets 23 à 25 sont encore plus énormes, enfin, les textes les plus grandioses de toute la Bible. Il voit même la réconciliation des peuples les plus ennemis, l'Égypte et l'Assyrie. Un peu comme l'Iran et les USA. Israël ne sera plus un point au milieu, mais aura sa propre place à côté d'eux. Ni plus ni moins, les bénédictions de Dieu qui étaient affectées à Israël maintenant seront déversées sur tous les peuples. Et l'Égypte sera appelée, comme la Syrie, mon peuple, l'œuvre de mes mains. Et même il y aura une autoroute, verset 23, entre les nations. Comme pour montrer l'élimination de l'aliénation entre les peuples. Et là, il est clair, ne faites pas de route vers l'Égypte pour échapper à la Syrie. Votre seul espoir est celui de l'Égypte. Votre seul espoir est celui de se tourner vers votre Dieu qui veut briser les barrières. Nous avons prié les églises pendant de nombreuses années pour une fenêtre qui s'appelle la fenêtre 10-40 dans notre humanité. C'est toute la période du milieu de notre globe qui voit un grand nombre de pays où la foi chrétienne ne peut être annoncée. Ce sont souvent des pays persécutés, le bas de la Chine, l'Inde, le Moyen-Orient, le nord de l'Afrique. Nous avons prié pendant des décennies pour que l'Évangile pénètre ces peuples où la persécution des chrétiens est tellement vive que le message de l'Évangile semble impossible à être véhiculé. On s'est demandé pendant des décennies comment Dieu allait faire une autoroute pour sa parole dans cette région du monde. Et ce qu'on a observé ces 10 dernières années, c'est qu'à travers les conflits et les déplacements de populations, nous avons vu arriver des personnes de ces pays dans nos pays pour pouvoir survivre, quitter la guerre. Et nous sommes maintenant, nous avons la possibilité maintenant de les accueillir, de démontrer de l'amour, et à travers cet amour, qu'ils puissent découvrir la beauté de l'Évangile. Dieu a ouvert une porte, a créé une autoroute à travers des peuples qui se sont déplacés pour que nous puissions, nous, leur annoncer l'Évangile. Dieu crée des autoroutes dans notre monde pour que sa parole unisse les peuples et qu'un jour, toutes les nations puissent l'adorer. Et notre dernier point, pourquoi Judas placerait sa confiance en l'Égypte alors qu'elle a échoué pour secourir un peuple voisin? Au début, quand on lit rapidement ce texte, ce chapitre 20, versets 1 à 6, on peut se demander de quoi et pourquoi il est là. Et même, il semble étrange qu'une révolte à Ashdod provoque une prédiction, une prophétie sur la captivité égyptienne et que celle-ci ait un impact sur l'Égypte. Pourtant, il conclut l'oracle, la prophétie d'Ésaïe contre l'Égypte. Comme un résumé en image de l'opinion du prophète sur la confiance en l'Égypte. Ésaïe, poussé par Dieu, a pris position. Dans un mime prophétique, comme cela se faisait à l'époque en tant que prophète, il a réalisé la vérité que l'Égypte était autant sujette à la défaite et à la capture que n'importe quelle autre nation. Et que la confiance en elle était aussi stupide qu'elle l'avait été pour Ashdod. La cité d'Ashdod avait attendu le secours de l'Égypte quand la Syrie l'avait attaquée. Moralité, aucun secours. Et même l'Égypte avait livré le responsable qui avait fui. La honte de l'Égypte sera celle de Judas. Pourquoi donc, demande Ésaïe, voudrions-nous faire confiance à l'Égypte? Cela ne peut se terminer que dans la honte. Pourquoi regarder la beauté de l'Égypte quand nous pouvons regarder la gloire de Dieu? En conclusion, quand les événements frappent notre monde, nous sommes troublés, perturbés, inquiets. Dans ces moments-là, nos yeux se tournent naturellement là où nous cherchons notre repos, notre secours, notre assurance, là où notre foi réside et repose. Vers quoi nos yeux se tournent dans ces temps difficiles, dans ces temps de crise? C'est normal qu'ils se tournent vers ce qui est autour de nous, sur ce où nous avons la main, sur ce sur quoi nous avons la maîtrise, sur ce sur lesquels nous pouvons agir. Et nous avons raison d'écouter les pouvoirs publics qui nous donnent des consignes sages face à un virus qui se propage. Prenons leurs alertes et leurs préconisations au sérieux, mais n'oublions pas, et c'est certainement ce qui nous arrive le plus souvent, n'oublions pas que Dieu est là. Et on le découvre dès les premiers versets de notre texte. Il est là, le Seigneur est monté sur un nuage rapide. Il arrive, il est là. Quand nous croyons que Dieu nous a abandonnés à notre triste sort, nous oublions que Dieu, au contraire, est auprès de nous. D'ailleurs, quelle que soit l'issue, vie ou mort, il est en train de faire avancer son plan, un plan magnifique de salut et de réconciliation. Nous ne le savons pas, nous ne savons pas comment ni pourquoi ces événements arrivent. Mais une chose est certaine, Dieu veut à la fois ébranler nos certitudes fragiles pour nous ouvrir de nouveaux horizons. Que nos regards se tournent avec confiance vers le Dieu qui peut nous donner du secours et nous donner une foi agissante pendant cette période troublée. Qui nous donne de vivre une foi responsable, notamment en obéissant aux autorités qu'il a placées au-dessus de nous pour notre bien. Qui nous donne de vivre une foi qui ne soit pas anéantie par la peur, car même si la menace est réelle, tout le monde ne va pas mourir de cette maladie. Qui nous donne de vivre notre foi en Église de manière créative. Saisissons de nouvelles opportunités, réfléchissons comment nous pouvons vivre une entraide réelle et concrète. qui nous donne de vivre une foi qui ne se replie pas sur nous-mêmes, comme nous l'a invité Vincent, sur nous-mêmes ou notre famille, et, ou même sur notre Église. Même si nous devons veiller à lutter contre l'extension de la maladie, vivons notre foi contre l'extension de la maladie, certes, mais vivons notre foi en cherchant les lieux où nous pouvons être utiles aux autres, à nos voisins, dans nos quartiers, ou à des structures qui ont un rôle clé pour la lutte de cette maladie. Que la confiance que nous avons en notre Dieu guide nos décisions dans les jours à venir et qu'elle nous permette de rayonner de l'amour et de la paix du Christ dans un monde qui en a tant besoin. Prions. Père éternel, on se tourne vers toi, le grand Dieu de l'univers, celui qui a tout l'univers en sa main. Et même quand la détresse nous touche profondément, et je pense particulièrement à toutes ces personnes qui souffrent de près ou de loin des conséquences de cette maladie. Je prie que dans ces circonstances, quand tous nos secours à nous, à portée de main, ont disparu, nous puissions avoir l'humilité de nous tourner vers le Dieu qui a tout créé, qui est là et qui se tient à notre disposition pour nous secourir, quelle que soit l'issue de notre vie. Je prie pour l'Église ici à Toulouse et dans tous les pays où cette pandémie agit. Je prie pour que l'Église soit un modèle de foi et d'espérance dans ce monde. Au nom de Christ.